Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour, Abel Guenheim au micro de Rayon libre et non pas Jérôme Sorel. Pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, nous ne sommes pas avant 2020, quand j'animais cette émission avant de la confier à Jérôme Sorel. Aujourd'hui, j'assure juste l'intérim de Jérôme et vous découvrirez à la fin de l'émission qu'il assure symétriquement mon intérim à la chronique. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juillet 2024. À nouveau, à l'intention des personnes qui nous écoutent en podcast, éventuellement à une date éloignée, je précise qu'hier, 30 juin, a eu lieu le premier tour des élections législatives anticipées provoquées par la dissolution décidée par Emmanuel Macron au soir des élections européenne du 9 juin 2024. Je reçois aujourd'hui à cette occasion Olivier Schneider, co-président de la FUB. Bonjour Olivier.
Bonjour Abel.
Vous étiez auparavant président de la FUB et c'est à ce titre que je vous ai déjà reçu au tout début de Rayon Libre en mars 2018 et que Jérôme vous a reçu en mars de cette année. Rappelez-nous d'abord rapidement ce qu'est la FUB et quelles sont les responsabilités que vous y avez occupées et que vous occupez actuellement.
La FUB, c'est une association nationale qui fédère des associations locales. Et donc depuis 1980, la FUB fédère des associations locales qui sont en faveur de la défense de l'idée que se déplacer à vélo pour ses déplacements quotidiens, c'est une bonne idée et c'est l'intérêt général, c'est à la fois l'intérêt des particuliers, mais aussi l'intérêt général par rapport à l'amélioration de la santé publique, à la diminution des bruits et l'amélioration de la sécurité routière. Et donc nous animons aujourd'hui un réseau de 500 associations qui sont indépendantes. Ça ne s'appelle pas FUB Paris, FUB Brest, FUB Strasbourg. Dans chaque ville, il y a une association qui se constitue elle-même, qui se déclare en préfecture et ensuite fait la démarche de rejoindre la FUB. Donc cette fédération a été fondée en 1980 et donc il y a 9 ans, j'ai eu l'honneur de succéder à Geneviève Laferrère, donc en avril 2015. Donc je suis passé de membre du bureau, vice-président, à président. Et donc j'ai pendant ces 9 ans présidé la FUB, donc jusqu'au dernier congrès en mars de cette année 2024. Et donc en mars, on a eu une réforme de nos statuts qui font qu'il n'y a plus de président. Donc je suis à date le dernier président de l'histoire de la FUB, qui n'a plus de présidence. Enfin, il y a une présidence, mais cette présidence est assurée par une collégiale. Donc cette année, la collégiale est assurée par 6 personnes, dont votre serviteur. Donc je suis un des 6 coprésidents. Il y a 2 femmes et 4 hommes. Donc on était en effet dans un autre épisode chez Jérôme avec une de mes coprésidentes, Céline Skovenovaka, que l'on salue. Et donc moi, en particulier, je suis porte-parole, je suis aussi en charge des relations gouvernementales et en charge des réseaux européens, mais également du handicap. C'est-à-dire que cette collégiale discute, alors en permanence par message, mais aussi tous les lundis à 13h. Aujourd'hui, on a dû vraiment finir à l'heure pour que je puisse être en direct sur Cause Commune. Et on avait un seul point à l'ordre du jour, c'est le résultat du premier tour des élections législatives. Et en fait, chacun a ses domaines sur, par exemple, les relations avec la SNCF, sur l'animation de réseau. Et donc, on prend toutes les décisions de manière concertée. En fait, ça change pas beaucoup par rapport en fin de présidence que j'ai assurée. De toute façon, sur tous les sujets, on avait aussi des répartitions de sujets et on discutait de tout. C'est juste que comme là, j'avais annoncé que je souhaitais m'orienter vers autre chose, vu que ce sont des fonctions bénévoles que j'occupe à la FUB et que 10 ans, ça faisait beaucoup. L'idée, c'était de dire, on va anticiper d'un an ce départ et je vais passer un an à faire du tuilage. Alors évidemment, on n'avait pas anticipé qu'il y aurait des élections législatives anticipées, donc ça a un tout petit peu modifié notre plan de charge.
Alors justement, on va parler de ce sujet de manière un peu plus concrète, précise. Ça fait déjà longtemps que des personnalités de la culture, du monde du sport et tout ça s'inquiètent de la montée du Front National. C'était moins le cas, bien que ça existait déjà dans le monde associatif. Et là, à l'occasion des élections déjà européennes et maintenant des législatives, le monde associatif s'est mobilisé de manière très importante. Le mouvement associatif qui fédère les associations a fait un texte. Alors, parlez-moi de ça et surtout aussi de ce que la FUB, comment la FUB se joint à ce mouvement.
Alors, la FUB est apolitique, elle tient à l'être. On discute avec l'ensemble des partis politiques par principe. Néanmoins, quand on regarde ce que les populistes et notamment l'extrême droite font là où ils sont arrivés au pouvoir, on sort de 8 ans. De populistes en Pologne, on a des populistes en Hongrie, on a de l'extrême droite dans certaines villes en Espagne, on les a eus en Autriche, en Italie. Il y a vraiment un élément commun, c'est le fait que toutes ces politiques-là soit ne font rien, soit font que du mal aux politiques de transport durable, et en particulier de mobilité active, dont le vélo. Et donc, notre rôle à nous, FUB, semble être, tout en respectant la diversité des opinions des 500 associations de la FUB, de mettre en exergue le fait que l'extrême droite n'agit jamais en faveur du vélo, et que, du coup, nous voulons informer que, certes, on n'a peut-être pas essayé récemment l'extrême droite en France, néanmoins, des voisins ont essayé, et une des premières choses qu'ils ont fait, c'est souvent de supprimer les plans vélos nationaux là où ils existaient, notamment en Italie, en Autriche. C'est de diminuer les sanctions vers les automobilistes. Donc c'est vraiment des mesures très populistes. Et donc, on avait, vous le savez bien, Amel, depuis le début de ma présidence, une plateforme qui s'appelait Parlons Vélo, qui permettait à l'élection de porter un manifeste sur ce qu'on propose et de permettre à des candidates et candidats de s'engager. Donc, malgré les brefs délais, on a décidé de remettre la plateforme en place et de la sortir d'un manifeste écrit de manière beaucoup plus large que d'habitude. C'est-à-dire, on ne parlait pas que de la bicyclette, bien que la FUB soit la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette. Je dis usagères et usagers parce que c'est vraiment le nom qu'on a pris quand on a modifié les statuts au mois de mars et qu'on est passé en collégial. Et donc, on a publié ce manifeste que vous pouvez facilement trouver sur le site élections.parlons-vélo.fr dans lequel on parle du fait que n'investir que dans la voiture par populisme est une impasse. On explique pourquoi et on propose des pistes de solutions hein, sur le fait d'avoir une offre globale qui combine l'ensemble des modes de transport durable. C'est pour bien montrer qu'il n'y a pas un clivage entre un électorat d'extrême droite qui serait exclus du vélo parce que de toute façon ils habitent à la campagne ou dans les quartiers périphériques, etc. On voulait vraiment dire qu'il y a un danger qui est celui du populisme pro-voiture et notamment en France porté par dans le cadre de ces élections par l'extrême droite et ses alliés. Et en même temps, parallèlement, vu que vous me posiez à Belle la question du monde associatif, c'est vrai que la FUB n'a pas fait, c'est pas ça qu'elle met en exergue, mais néanmoins il faut noter que toutes les associations sont très inquiètes parce que les libertés associatives font aussi partie des domaines que l'extrême droite remet systématiquement en cause quand on a l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Il n'y a qu'à voir aussi ce qui se passe actuellement en Géorgie, n'est-ce pas, etc., où on est des agents d'étrangers dès qu'on est financé de l'extérieur. Ouais. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a une très forte préoccupation sur le fait que l'arrivée de l'extrême droite, y compris pour les associations autres que la FUB écologistes, on va dire, que le moindre blocage d'une zone à défendre, j'en sais rien, sur l'autoroute A69, soit considéré comme un motif pour enlever des droits aux associations. Donc c'est ça aussi qui explique que nous ne pouvions pas rester les bras croisés, juste dire ça ne nous concerne pas.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a bien intéressé, c'est la façon dont les différents textes qui ont été conçus par la FUB ont été préparés et ensuite décidés au niveau de votre collégial. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? C'est-à-dire en particulier les webinaires.
Tout à fait. Alors, la particularité de la réforme dont je faisais part, que j'ai mentionné, qui a eu lieu en mars dernier, mars 2024, lors de l'Assemblée générale de Grenoble, c'est qu'elle a été préparée par 2 ans de travaux. Et le but, c'est pas juste d'enlever un président ou une présidente et de le remplacer par une collégiale et de rester dans un fonctionnement avec un entre-soi de quelques personnes élus et qui du coup décideraient seuls. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir ce fonctionnement entre la collégiale, donc ces 6 personnes, le conseil d'administration, une petite vingtaine, et l'ensemble du réseau et des sympathisants de la FUB. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Je voulais vraiment remercier les membres du réseau FUB de s'être ainsi mobilisés, car dès qu'on a vu qu'il y avait cette dissolution à laquelle on ne s'attendait pas forcément, on a organisé un webinaire pour proposer des choses à notre réseau et écouter notre réseau, savoir qu'est-ce que eux attendent, de quels outils ils ont besoin, est-ce qu'ils souhaitent se mobiliser, et si oui, quels sont les outils que la FUB peut mettre en avant. Et c'est vrai que par rapport à d'autres réseaux associatifs, on a eu une réactivité incroyable du réseau, vu qu'on a eu une centaine de personnes qui ont participé à ce webinaire qui était le mercredi, 3 jours après la dissolution. Et donc, je crois qu'Abel, vous en étiez.
Absolument.
On a pu consulter 20% de notre réseau de manière vraiment démocratie directe. Et donc, on a eu des gens qui ont évidemment exprimé des opinions variées, vu que notre réseau est... Il y a le point commun et indiscutable qui est la bicyclette, mais après sur les autres points, on a des sensibilités diverses. Mais c'est vrai qu'on a à la fois discuté avec les autres associations qui touchent soit au transport, soit à l'environnement, soit justement, vous l'avez mentionné, le mouvement associatif. On a voulu vraiment ouvrir. Alors, dans les délais, c'était pas possible de faire comme dans d'autres campagnes de porter avec les associations de collectivités Pro Vélo ou l'Union Sport et Cycle ou d'autres, parce que vous imaginez bien que les délais de signature dans ces organisations-là ne permettaient pas d'avoir l'agilité nécessaire dans ces délais courts. Par contre, avec notre réseau, on s'en est donné les moyens en organisant justement 2 webinaires. On en a un 3e ce soir, et en montant cette plateforme, alors aidé par le fait qu'on en avait déjà une, il suffisait de la redécliner pour 2024, mais le suffisait est quand même entre guillemets, et on a rédigé ce manifeste de manière aussi participative pour que chacune et chacun, ou en tout cas un maximum, s'y retrouve. Et donc on a eu un conseil d'administration alors qui était déjà programmé, hein, ça tombait bien d'un point de vue date, mais dont on a changé l'ordre du jour pour consacrer une bonne demi-journée. Alors, est-ce qu'on s'engage ? Oui, non. Ensuite, comment est-ce qu'on s'engage ? Est-ce qu'on est apolitique ? Est-ce qu'on... etc. Et donc, on a vraiment eu une... c'est pas un homme ou même une femme ou un groupe de 6 personnes qui ont décidé, c'était une décision collégiale où on n'était pas d'accord au début, on a réussi avec notre discussion à aboutir à quelque chose qui se rapproche d'un consensus. Et donc, c'est la façon dont la FUB projetait dès cette Assemblée Générale de fonctionner. Et donc, ça peut marcher. Ça demande beaucoup de temps, mais comme tout le monde est de bonne volonté, ça fonctionne.
Oui, je confirme, parce qu'effectivement, ça m'avait beaucoup impressionné, en particulier parce que, à la fois, l'ensemble des membres ont été consultés, mais il était clair que c'était les élus qui prenaient la décision. Et il me semble que c'était clair des deux côtés que la discussion allait jusqu'au bout, que tout pouvait être dit au cours de la discussion, mais qu'ensuite on ne remettrait pas en cause ce qui se passerait en dehors de cette grande réunion. Effectivement, il y en a une ce soir, et donc on va passer maintenant à l'agenda. Alors, que voir, que faire au cours des jours qui vont venir ? Eh bien, la première chose, c'est ce soir, donc, à 20h30, les adhérentes et adhérents des associations membres de la FUB sont invités à participer à une réunion comme celle dont nous venons de parler, le lien vers cette réunion, qui est bien sûr réservé aux adhérents et adhérentes des associations, se trouve sur le Mattermost de la FUB. Ensuite, dans cet agenda, j'ai noté pour le mercredi 3 juillet, à Angers, le premier forum de la cyclo-logistique organisé par les boîtes à vélo dans le cadre du programme CE Cyclo-cargologie. Cet événement qui est présenté comme une opportunité pour découvrir le transport des marchandises à vélo comme solution aux enjeux de plus en plus nombreux de la logistique du dernier kilomètre. À la fin de cette semaine, à Francfort, il y aura le salon Eurobike, le rendez-vous annuel européen de l'écosystème vélo, du 3 au 7 juillet à Francfort, où la filière française du vélo, dont Jérôme va tout à l'heure vous parler dans sa chronique, tiendra un pavillon France. Vendredi 5 juillet aura lieu, comme chaque premier vendredi du mois, la soirée radio ouverte de Cause Commune, à laquelle tout auditeur ou auditrice est invité. Le lien est sur le site de la radio. Et je termine, la semaine se terminera par le 7 juillet, le deuxième tour des législatives, où, bien sûr, il faut voter et voter bien. Et maintenant, la pause musicale.
Cause commune, la voix des communs.
Life's a thing to be enjoyed. Some days they feel like a void. And things get heavy, things get grim. But keep going, can you swim? Life's a thing to be enjoyed. Happy, a notion, it's never had a voice. Don't take it lightly and hide distress. It could be you, it could be me. I could.
Abel Guenheim, au micro de Rayon Libre, je reçois Olivier Schneider, coprésident de la FUB. Alors Olivier, je voudrais vous poser une question un peu complexe. Récemment, j'assistais à l'Assemblée Générale d'une association membre de la FUB, et l'animateur avait un peu eu un discours du même type que celui que vous avez eu tout à l'heure, c'est-à-dire sur les dangers de l'extrême droite. Et à la fin, je suis allé le voir, on se connaît bien depuis longtemps, et je lui dis, mais tu sais quand même que parmi les gens qui sont là dans la salle et que tu, à qui tu dis que c'est pas bien de... Hein, il y en a un certain nombre, forcément, statistiquement, qui votent pour l'extrême droite. Hein, et je, l'autre jour, je lisais quelqu'un de proche qui faisait le même type de réflexion en disant, parmi les gens qui sont abonnés, combien il y en a qui, en fait, votent à l'extrême droite. Et puis, je lui ai dit aussi, mais en plus, c'est encore plus grave s'il y a personne qui... Dans l'assistance qui vote à l'extrême droite, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est coupé du monde. Alors, je voudrais avoir vos réflexions par rapport à...
C'est intéressant d'entendre ça. Enfin, je vais commencer par la deuxième question. Moi, je pense que quand même, c'est pas être coupé du monde que d'assumer qu'il y a une coupure dans le pays et qu'il y a un certain nombre de raisons qui font que certaines et certains vote pour l'extrême droite sans que ça en fasse automatiquement des antisémites, des fascistes ou je ne sais quoi. Par contre, en effet, je suis en effet sûr que dans des associations qui ont 1000 membres ou même 300, il y en a qui votent et parmi ceux qui votent, il y en a qui ont voté Rassemblement National ou compte tenu de leur score, hein. Enfin, c'est toutes les communes. Mais quelque part, vous l'avez dit, c'est en disant que ce serait rassurant, entre guillemets, bon, c'est peut-être pas le terme rassurant non. que j'utiliserais,
oui.
mais quelque part, aujourd'hui, on sait bien que tous les votes ne sont pas des votes d'adhésion, et même des votes d'adhésion ne sont pas des votes d'adhésion à 100% des programmes, ce sont des choses, alors je suis pas ni sociologue, ni politologue, mais il y a d'autres raisons qui mènent à telle ou telle décision en matière de vote, mais quelque part j'ai envie de dire justement nous quand on écrit aux personnes qui ont répondu au baromètre, celles qui ont coché la petite case j'accepte de recevoir des infos de la FUB, quand on parle des dangers de l'extrême droite, c'est pas juste pour que les gens se mobilisent et mobilisent des gens autour d'elles pour aller voter, mais c'est peut-être pour interroger certaines de ces personnes qui seraient tentées de voter extrême droite pour dire on n'a aucune consigne à donner à personne, mais c'est un message de mais ça c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans une campagne, surtout vu la durée, vu que le président de la République a choisi la durée la plus courte possible, donc les fameux 20 jours, qu'il n'y a pas une vraie campagne avec des programmes, enfin en tout cas les débats étaient beaucoup plus sur des sujets triés sur le volet et qui favorisait le vote extrême, comme sur l'insécurité, comme sur l'immigration au sens large. Néanmoins, je pense que c'est notre rôle d'assumer, et tant pis si on doit perdre des adhérents ou des gens qui vont nous dire si c'est... Enfin, je pensais que des gens disent « j'arrête de faire du vélo parce que la FUB a dit que... Factuellement, l'extrême droite, là où elle est arrivée au pouvoir, elle mène des politiques populistes en termes de transport et qu'elle favorise la voiture et qu'elle supprime les plans vélos. Enfin, je veux dire, c'est factuel. Moi, je veux bien que quelqu'un, comme on dit, fact-check pour vérifier ce qu'on dit est entièrement faux. Et donc, c'est le fait d'informer là-dessus. Nous qui sommes spécialisés et qui avons... alors moi, je suis responsable des réseaux européens dans ma délégation, donc j'ai discuté notamment à Gand, où il y avait la conférence Velocity il y a quelques jours, fin juin, avec des représentantes et représentants d'associations de pays où l'extrême droite est soit au pouvoir dans certaines villes, soit l'est ou l'a été au niveau national. Et donc moi j'assume ce qu'on a dit, c'est que on n'est pas là pour parler des autres sujets, vu que l'objet de la FUB, c'est la mobilité et c'est le vélo et tout ce qui est autour. Mais sur ce sujet spécifique-là, sur lequel on a une expertise, il n'y a aucune association qui nous a dit « Non, non, mais en fait, ce qu'ils ont fait sur le vélo ou sur la mobilité durable est formidable. » Donc, mais en effet, mais quand, cher Abel, quand on attaque une ville parce qu'elle ne respecte pas la loi, notamment l'article L228-2 ou -3 du Code de l'environnement, désolé pour les chiffres, mais c'est l'obligation de faire des pistes cyclables. Moi, je l'ai vécu à Brest, en basse à pied à vélo, il y a 15 ans. Ça mène aussi à à des gens qui quittent l'association parce qu'ils trouvent qu'il faut pas attaquer, on n'attaque pas sa propre collectivité. Donc parfois il faut dire les choses et faut, moi je préfère dire les choses que d'être en, dans la langue de bois. Et tant pis s'il y a des gens à qui ça plaît pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, et surtout si on plaît à tout le monde, c'est qu'on ne fait rien.
Olivier, merci. J'ai la même souffrance qu'à Jérôme chaque semaine au moment où il est obligé de couper un dialogue très intéressant avec son interlocuteur au sein de l'interlocutrice, puisque maintenant c'est l'heure de sa chronique.
Bonjour, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui c'est Jérôme Sorel qui se colle à la chronique et c'est Abel qui se colle à l'animation de cette émission. Et ben la chronique du jour, trois actualités, il va falloir que vous trouviez l'intrus. La première actu, c'est le Tour de France. La deuxième, c'est le premier tour des législatives. Et la troisième, c'est la signature d'un contrat de filière économique entre France Vélo, filière économique et ses ministres. Trois actus, mais qui est donc l'intrus? Et ben il y a deux sujets qui trustent la une des journaux aujourd'hui. Il y a le Tour de France et évidemment le premier tour des législatives. Et un autre sujet qui est complètement passé à la trappe médiatique. Ce contrat de filière. Et pourtant, il y avait six ministres. Le vélo, l'écosystème vélo, tous les écosystèmes vélo ont besoin de relais médiatiques. Il y a une presse, il y a des acteurs qui en parlent, qui relaient, qui communiquent, qui mettent en valeur, mais qui critiquent aussi. Et pour évoquer ce que je connais, Rayon Libre et Wheels, nous contribuons au quotidien, toutes les semaines, à porter, à raconter, à proposer un récit autour de cette ambition, autour du vélo en France. Nous autres médias spécialisés devons être mieux identifiés et mieux accompagnés pour les acteurs, par les acteurs du vélo. Les médias spécialisés, qu'ils soient traditionnels ou sur des contenus en ligne, YouTube, TikTok, Instagram, newsletter, peu importe, ils peuvent être au service de la filière. Encore faut-il qu'ils soient soutenus et accompagnés financièrement. Produire des récits, proposer une réflexion au service de l'industrie, au service des usagers, des pratiquants, de la filière, au service d'une vision, tout cela demande du temps, de l'expertise, des moyens humains et surtout des moyens financiers. Dans les faits, les journalistes ou producteurs de contenu dans le monde du vélo doivent tous jongler au quotidien pour trouver un modèle économique. Au-delà de combien ça coûte ou de combien ça rapporte, la bonne question ne serait-ce pas combien ça vaut? Combien ça vaut pour les acteurs du vélo d'avoir des tribunes, des relais, des endroits où s'exprimer, des espaces pour raconter, pour expliquer, pour créer de l'adhésion, pour faire vendre aussi? Vous autres acteurs du vélo, vous avez besoin de nous, de notre expertise, de nos relais d'audience. Et nous, eh ben nous, on a besoin de vous, de vos histoires, et on a aussi besoin d'être soutenus financièrement, indépendamment d'un algorithme, avec du budget pour raconter vos histoires proprement, sérieusement et malgré tout librement. Sans accompagnement financier sur des projets structurants au service d'une vision de la France à vélo, d'un monde plus cyclable, alors le vélo restera du cyclisme traité principalement dans les médias au mois de juillet pendant le Tour de France. Pour qu'en septembre 2024, une autre saison de Rayon Libre puisse exister, pour que des médias comme Wheels ou Transition Vélo ou Vélotaf ou encore Isabelle et le Vélo ou encore le Concentré Vélo, des acteurs comme Altice Play, nous puissions continuer à raconter, à donner envie, à informer, à cultiver, à faire vendre, eh ben on a besoin du soutien moral, mais surtout du soutien financier du monde du vélo. Donnez-nous de l'info, accompagnez-nous financièrement. Pour ça, est-ce qu'on doit s'organiser en filière? Devons-nous créer l'APCVB, l'Association des producteurs de contenu vélo et bicyclette? Et si on crée cela, où placer nos curseurs pour conserver une information libre, indépendante, factuelle, éclairée et critique? Les questions sont posées et surtout l'appel est lancé.
Merci Jérôme. Olivier, il nous reste une minute. Je vais vous demander simplement de motiver les adhérentes et adhérents de la FUB pour qu'ils puissent assister ce soir au webinaire.
Sur qu'est-ce qu'il y aura d'autre par rapport au webinaire de ce soir? Quelle est la suite des opérations? On va être concentré sur une communication interne vers nos militants et notre réseau. On ne veut pas communiquer vers les grands médias. C'est pas dans un second tour de 6 jours que le vélo ou la mobilité, bien que la mobilité soit un vrai enjeu à notre sens et que le choix entre les différentes options risque de vraiment l'influencer. On va surtout mobiliser nos adhérents. Chose numéro 1, c'est voter et faire voter. Et chose numéro 2, moins importante, mais c'est de continuer à signer et faire signer le manifeste de la FUB et faire pivoter les positions des associations qui se sont appropriées ce manifeste tout nouveau.
Merci Olivier, je suis obligé de vous couper. Merci Jean-Philippe pour la réalisation. Vous nous retrouverez, Jérôme et moi, à nouveau à notre place habituelle, lundi prochain, à la même heure, sur Cause Commune 93.1. Bonne semaine et bon vote.
Rayon Libre.